demain, mais aussi des pièges à éviter pour nous comme église locale et comme individu. Voilà. Et en fin de compte, si on faisait un résumé, c'est une drôle d'introduction, mais les Corinthiens, c'est quoi leur problème au final ? Ils manquent de sagesse. Ils manquent de sagesse. Alors ce matin, on va essayer de comment éviter le manque de sagesse. Ou peut-être pour certains, on va essayer de trouver la sagesse, pour d'autres la retrouver, et pour d'autres éviter de la perdre. Donc vous voyez, on est tous concernés. Alors pour cela, Paul va dépeindre trois images de l'Église dans ce chapitre. Et pour chaque image, il va y associer un but, si on veut. Premièrement, il va dire que l'Église, c'est une famille. C'est vrai, l'Église, c'est une famille. Et le but de cette famille, c'est la maturité. L'Église, c'est un champ. Le but, c'est la croissance. Et enfin, l'Église, c'est un temple. Et le but, c'est la qualité. Voilà. Donc, tout d'abord, la famille. Alors, Paul, avant cela, en Corinthiens 1 et 2, il compare les sauvés et les non-sauvés. Là, il compare les chrétiens en deux catégories, les matures et les charnels. Un chrétien acquiert de la maturité en permettant au Saint-Esprit, ça a été dit ce matin, de l'instruire et de le diriger quand il se nourrit de la parole. Le chrétien qui manque de maturité, c'est très simple, il vit pour les choses de la chair, ça a donné charnel, et il a peu d'intérêt pour les choses du Seigneur. C'est un fait, on peut le vivre dans certains domaines. Bien sûr, l'apôtre Paul, Norbert l'avait dit, mais c'est bien de le rappeler, à aucun moment il parle des nouveaux convertis, quand il parle des gens immatures dans la foi. Ceux-là, ils ne sont pas concernés, ils viennent de se convertir, sont des bébés. Paul est le père spirituel de cette église de Corinthe, c'est lui qui l'a fondée. Et pendant 18 mois, il avait enseigné, tous les jours, 18 mois. Il les a aidés à grandir comme une famille. Et quand quelqu'un naît de nouveau, eh bien, on l'aide à grandir. C'est le rôle de chaque membre de l'Église, c'est le rôle des pasteurs, des anciens, de faire grandir une personne en maturité. C'est le premier but de l'Église. Et les caractéristiques de la maturité, comment on peut les reconnaître ? Alors, dans ce passage, on reconnaît la maturité de quelqu'un par le régime qu'il suit. Soit on se nourrit de lait, soit on se nourrit de viande. On commence par le lait, on est jeune converti, mais à un moment donné, il faut passer à la viande, il faut passer aux aliments solides. Mais qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul quand il parle de ça ? Et souvent, le lait et les aliments solides, on dit souvent la réponse, c'est que c'est, le lait, c'est les choses simples de la parole. Souvent on dit ça. Et la viande, ben, c'est les doctrines plus difficiles. On meurt, où on va, enfin, etc. Là, c'est plus compliqué. Mais franchement, dans le contexte, là, c'est pas crédible. C'est pas crédible parce qu'ils ont eu, pendant 18 mois, ils ont pas eu Frédéric Perrier ou Pascal ou Norbert, ils ont eu l'apôtre Paul comme enseignant. Là, c'est quand même du haut de gamme. On peut imaginer que les doctrines étaient bien enseignées par l'apôtre. Donc, on ne peut pas imaginer que Paul ait refusé de leur communiquer certaines vérités. Dans Éphésiens, il nous rappelle que « Je vous le déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil sans rien en cacher. » On ne peut pas imaginer que Paul enseigne tout le conseil aux Éphésiens, puis aux Corinthiens un peu moins. C'est pas crédible. Ça ne marche pas. Donc, puis moi personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, c'est bien d'avoir un peu étudié ce livre, mais j'ai toujours eu le sentiment que chez les Corinthiens, c'était des gens pas équilibrés, quoi, tout simplement. Ils étaient un peu légers, ils ne connaissaient rien dans la parole de Dieu, dans leur fondement. Ils étaient nuls, mais enfin, bon, pas terrible, quoi. Et pourtant, chapitre 1, verset 5 nous dit « Car en lui, vous avez été comblés dans tous les domaines. » Dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et de la connaissance. Donc là aussi, c'est des gens qui ont été bien enseignés, bien formés. L'Épître aux Hébreux dit que le lait, c'est pour ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Tandis que la nourriture solide est pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Ça, c'est vrai. Mais je trouvais ça, Calvin, il dit ceci, et franchement, bon, c'est pas parce que c'est Calvin, mais il semble, dans le contexte, c'est une piste intéressante. Il dit ceci, il dit que Christ, c'est du lait pour les bébés et de la viande pour les hommes. Et le lait, nous dit-il, c'est quoi ? Le lait, c'est un aliment prédigéré, facile à assimiler. La viande, elle oblige un effort à celui qui la mange. Il faut la mastiquer. Autrement dit, le chrétien qui n'a pour nourriture que spirituelle que ce qu'il reçoit prédigéré d'un pasteur, d'une prédication, comme ce matin, sur Top Chrétien, sur ce que vous voulez, s'il ne se nourrit que de cette manière-là, elle est bonne, mais s'il n'utilise que celle-ci, eh bien, il est peut-être toujours au lait de la parole. Par contre, celui qui ajoute la lecture de cette parole, qui ajoute la méditation de la parole par lui-même, qui ajoute le fait de la mettre en pratique, cette parole, alors lui, ça devient certainement une personne plus mûre dans la foi. Hein ? Voilà. Un fondement à retenir, aller par soi-même dans la lecture, l'étude, la méditation de cette parole. Ça, c'est un des chemins de la maturité. C'est évident. Hein ? Et puis, vu l'attitude des Corinthiens, il me semble que ça colle bien au contexte. Hein ? Chacun se veut de quelqu'un, de Paul, de Pierre, d'Apollos, et chacun pense avoir la vérité. Puis, il y a un autre moyen infaillible d'évaluer la maturité. Le chrétien mûr témoigne de l'amour et s'efforce quoi ? D'être en bonne entente avec les autres. S'il dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Donc, ça dépend de chacun de nous d'être en paix avec les autres. Parfois, quelqu'un peut vraiment refuser, très bien, mais chaque fois c'est l'occasion, ça dépend de nous. C'est une forme de maturité évidente, hein ? C'est une forme. Les enfants, c'est quoi la caractéristique des enfants ? Ben, ils aiment se disputer. Hein. Ils aiment se disputer, ils aiment s'identifier hein, à des héros, sportifs, des stars. Hein. On a chacun eu nos stars, nos rêves, on voulait être comme ci, comme ça. Moi, j'ai oublié, je ne me rappelle plus, donc on ne va pas perdre de temps. Mais les bébés de Corinthe, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils se disputent. Ils se disputent pour savoir qui c'est le meilleur prédicateur. Paul, Apollos ou Pierre ? Et en plus, entre parenthèses, il y en a qui se disent de Christ, ce qui est énorme, quoi. Hein ? Ça fait gamin, non ? Vous ne trouvez pas ? Hein ? Ça fait un peu cours de récré, non ? Mon papa, c'est le plus fort, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent, c'est le plus riche. Il gagne plus de sous, hein, etc. Quoi. Et Paul, qu'est-ce qu'il rappelle ? Que chacun, on a reçu des dons par pure grâce, et que ça, c'est pour le service des autres. Hein ? Donc, celui qui a de la maturité, il va utiliser ses dons comme des outils avec lesquels il construit, alors que celui qui en manque va les utiliser comme des jouets. Je trouve que l'image est hein, des outils, des jouets, des trophées. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se vanter. Vous avez vu, moi ? Voilà. Le chrétien mûr, il va l'utiliser comme des outils. Et à Corinthe, ben, ils aimaient étaler leurs dons. Hein. Mais ils ne se préoccupaient pas assez de servir les autres. Ils ne se préoccupaient pas d'édifier l'Église. Ils manquaient de sagesse. Deuxième point de l'apôtre Paul, sa comparaison, c'est un chant. Et ce chant, le but du chant, c'est la croissance. Paul, il y a pas que dans Corinthiens, il aimait les images tirées des chants. Souvent, il les utilise dans ses lettres. Si vous vous rappelez Matthieu 13, la parabole du semeur, un homme sort pour semer. Jésus, il compare le cœur humain à la terre et la parole de Dieu à la semence. Et bien, Paul va la reprendre, cette image, et il va en faire une image collective, pas individuelle. L'église locale, c'est un champ. C'est un champ qui doit porter du fruit. Chacun est appelé à semer des graines. Chacun. à cultiver la terre, à arroser, à récolter les fruits. Mais l'accent, il n'est pas mis sur les ouvriers. L'accent, il est mis sur Dieu. C'est juste se remettre dans la bonne position. Alors Paul, Apollos, quiconque, sont des ouvriers. Norbert nous l'a dit, des ouvriers qui ont accompli la tâche qui leur a été assignée. Pas plus, pas moins. C'est de Dieu qui a donné vie à ces efforts. Paul pouvait être brillant, Apollos pouvait être brillant, peu importe. Si ce n'est pas Dieu, hein, c'est Dieu. C'est toujours Dieu, en fait. Hein ? C'est souvent une erreur qu'on fait de centrer l'attention sur les serviteurs. Regardons au Seigneur de la récolte. Regardons à celui qui est la source de toute bénédiction. Pourquoi comparer des prédicateurs ? Pourquoi comparer des statistiques ? Dieu est la source de la croissance. Aucun homme ne peut s'en glorifier. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que personne ne peut accomplir ce travail tout seul. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Un ouvrier sème la terre, sème les graines, hein, un autre retourne la terre, hein, un troisième arrose, le temps passe, le fruit apparaît, et puis d'autres moissonnent. Ça, c'est une église en bonne santé. Diversité des membres et part de chacun dans le royaume de Dieu. Alors, celui qui plante, celui qui arrose, ben, ils font qu'un. Parce que ça n'a pas d'importance qui plante, qui arrose. Qui a annoncé la première fois l'évangile à quelqu'un dans la rue et une autre personne, 10 ans après, cette personne, on lui avait parlé dans la rue, elle est arrivée dans une église et puis quelqu'un était là et c'est lui qui a reçu sa, entre guillemets, sa conversion. Est-ce que celui qui a reçu la conversion est plus que celui qui a annoncé l'évangile ? Est-ce que celui qui a annoncé l'évangile est plus ? Non. C'est Dieu. C'est toujours Dieu. Hein ? C'est ça le début de la sagesse. Hein ? Chacun accomplit une tâche qui lui est confiée. Et le manque de sagesse, c'est que quand une tâche nous est demandée, de refuser de la faire. Ça, c'est un manque de sagesse. Quand il y a unité de but, il y a unité d'esprit. Quand le but est commun, il n'y a plus de problème dans nos relations. Hein ? On a tous besoin d'humilité. J'aime bien le dire, mais je vais vous le redire. Hein. L'humilité, c'est la seule qualité que l'on perd au moment où on pensait la posséder. Et oui, je pense que c'est bon de s'en souvenir. Enfin, moi, je m'en souviens régulièrement. Parce que des fois, oui, j'ai la faiblesse de penser que je suis humble. Quelle blague. Donc, les ouvriers ne produisent pas la récolte, Dieu produit la récolte. Et si on voulait travailler seul, ça se solderait par des échecs. Il n'y a pas de travailleurs isolés dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le Seigneur veut une croissance. Vous savez, il ne s'agit pas de se dire on ne veut pas croître pour croître. L'image du champ, dans le champ, il y a une croissance. Et une croissance, c'est numérique. Voilà. Une graine va produire plus de graines, plus de fruits. C'est le Seigneur qui dit cela. Donc, le Seigneur, il veut ça pour chaque église. Compris la nôtre. Hein. Il ne veut pas que seulement que des personnes soient gagnées au Seigneur, malgré tout, parce qu'il n'y a pas que le numérique, la croissance dans ce sens-là. Il veut aussi du fruit de l'esprit, ça a été rappelé ce matin. Il veut de la sainteté, il veut de la libéralité, il veut des bonnes œuvres, il veut de la louange. C'est tout cela, être en bonne santé. Hein. Et donc, comme je disais, avec une croissance spirituelle de chacun, il y aura naturellement une croissance numérique de membres. Parce qu'on annoncera l'évangile, parce qu'on en aura envie, parce qu'on verra des fruits. Et tout cela participera. Hein ? Donc on doit être attentif à cultiver, à planter la bonne semence qui porte en elle-même la vie. Et puis le troisième point qu'il veut relever, c'est le temple. Et là, c'est plus la qualité. Alors là, l'image est double. Les chrétiens sont à la fois les pierres vivantes hein, qui composent le bâtiment et en même temps, on est les ouvriers qui travaillons à sa construction. On est les deux à la fois. On est pierres vivantes et on participe à cette construction. Et là, encore une fois, la beauté du temple, elle ne réside pas dans la valeur des matériaux, elle réside dans la forme. elle réside dans la structure. Une seule pierre, désolé, ça ne coûte pas cher. Hein. Une pierre, on en trouve des tonnes, des pierres. Hein. Allons dehors, des pierres, il y en a. Mais par contre, une fois qu'elle a été taillée, une fois qu'elle est mise à sa bonne place, dans l'ensemble avec les autres, alors elle a de la valeur. Elle est de qualité. Hein. Le Seigneur se préoccupe de la qualité de notre construction. L'Église, elle n'appartient pas au prédicateur. L'Église, elle n'appartient pas à un responsable, pas à un conseil. Elle est l'Église de Dieu. Si on veut construire l'Église locale de la façon dont Dieu le veut, ben on doit remplir, entre guillemets, certaines conditions. Hein. La condition, elle est simple. On doit construire sur le bon fondement. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement. Paul, quand il arrive à Corinthe, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a pris la décision de ne prêcher quoi ? Que Christ, Christ ressuscité. La folie de la croix. Il n'a pas fait autre chose. Il a posé le fondement. Personnellement, maintenant ça fait quelques années, depuis que je suis chrétien, ça fait pas mal d'années, j'en ai vu des courants. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu des courants centrés sur l'abondance, d'autres sur la guérison, d'autres sur une méthode, d'autres sur un prédicateur vedette, d'autres un point de doctrine, vous savez, point de doctrine qui n'est pas important, mais qui est relevé, puis il devient la vérité. Il n'y a plus de vérité hormis ce point. Je l'ai vu. Hein. Et puis, ces courants, ces modes, ben pour ceux qui sont anciens comme moi, qu'est-ce qu'on constate ? Ça ne dure pas. Ils vont, ils viennent, ils reviennent. Rien de nouveau sous le soleil. C'est la Bible le dit. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Et ben là, à Corinthe, c'est la division au sujet de personnes, au sujet de personnalité, alors qu'ils auraient simplement dû glorifier le Seigneur de la vie. Hein. Le fondement est posé par la proclamation de l'Évangile. Le fondement, c'est la partie la plus importante d'un bâtiment, parce qu'il va déterminer sa taille, sa structure, sa forme. On doit construire avec de bons matériaux. Hein. Et là aussi, qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul par choix de matériaux ? Il ne parle pas de personne. Il ne parle pas de personne. Parce que les chrétiens sont les pierres vivantes qui composent cet édifice. Donc ce n'est pas du matériel. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Vous voyez ? Des pierres vivantes, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Non, l'apôtre Paul, là, il fait allusion aux doctrines dans la parole de Dieu. Et dans chaque partie de ce chapitre, la parole, elle est symbolisée par quelque chose pour correspondre à l'image que l'apôtre Paul développe. La parole, c'est la nourriture pour la famille, c'est la semence pour le champ et c'est le matériau pour le temple. La parole, c'est la nourriture pour la famille, la semence pour le champ et le matériau pour le temple. On doit creuser profondément et puiser dans cette parole l'or, l'argent, les pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, cet or, on les apporte à la construction du temple. On les apporte à la fondation de l'Église. Hein ? Et puis en plus, ces fondations, ces matériaux qu'on va amener vont nous donner des récompenses. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, c'est un peu troublant de penser que les actions de notre temps, ce qu'on vit aujourd'hui, aura une valeur, aura un sens dans l'éternité. C'est bizarre quand même, non ? Et en même temps, pour nous, comme chrétiens, je trouve qu'on a de la peine à mettre ensemble la récompense avec la grâce. Hein ? Ça me semble, si le Seigneur nous a sauvés sans aucune considération de nos mérites, quel besoin a-t-il de nous récompenser ? Vous êtes posé cette question ? Bon, pour moi, c'est un grand débat, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Nos mérites et nos œuvres ne peuvent rien ajouter à ce salut. Alors c'est quoi ces récompenses ? C'est une bonne question. Mais ces questions, vous savez quoi ? J'ai compris quelque chose. On n'aura pas les réponses aussi longtemps qu'on sera là. Hein ? Mais on peut affirmer une chose, c'est que Dieu dit que nous aurons des récompenses pour celui qui bâtit avec le bon fondement, en utilisant de bons matériaux. il y aura des récompenses. C'est bizarre, et il va nous donner ses récompenses. Et ces récompenses, elles seront supérieures à tout ce que le monde peut offrir. Parce que nous, notre problème, c'est que la récompense, ben forcément, on la met dans notre monde à nous, quoi. On a fait quelque chose de bien, on mérite, et puis ça va être une belle récompense. Et pourtant, le Seigneur, en même temps, nous dit, que n'as-tu que tu n'aies reçu ? Encore une fois, gros paradoxe, hein ? Alors, nous récompenser de ce qu'on a fait, alors que ce qu'on a, c'est lui qui nous l'a donné ? C'est, là aussi, c'est étrange. Hein ? Ben alors, je vais vous dire ma conclusion. Il y aura des récompenses. Voilà. Acceptons-le, tout simplement. Et sans mettre de rivalité. Sans y mettre de rivalité, de fantasme, de dire... Hein ? Parce que je suis certain qu'au ciel, personne, mais alors personne, ça par contre je peux le dire, ne dira à son frère, tu as vu ma récompense ? Belle, hein ? Tu as rien ? Parce que si c'est ça le ciel, il vaut mieux qu'on reste ici. Hein ? Ça n'a aucun intérêt. Hein ? Donc il y aura des récompenses, mais on sera heureux d'en avoir, et on sera heureux pour celui qui en a, et on sera heureux d'être au ciel, tout simplement, déjà, c'est pas mal. Et puis, voilà, donc soyons calmes avec ça. À mon avis, n'allons pas plus loin que ce que la parole de Dieu dit là-dessus. Hein ? Et puis, jamais oublier non plus que l'Église, ce n'est pas une société commerciale. Hein ? S'inspirer de bonnes pratiques de gestion, la semaine prochaine, on a une assemblée générale, et bien sûr, on doit présenter des comptes, et puis c'est bien. Et puis, on doit bien la gérer, parce qu'il y a des offrandes, il y a une responsabilité pour les responsables. Donc ça, c'est le bon côté des choses. On doit avoir le souci de gérer au mieux l'Église. Elle doit être même mieux gérée que n'importe quelle société. Mais il y a une sagesse dans ce monde qui est bonne pour le monde. Mais elle ne convient pas à l'Église. Là aussi, elle ne convient pas à l'Église. Le monde va dépendre de promotion, le monde va dépendre de prestige, d'influence, d'argent, de gens importants. L'Église, le chrétien, lui, va dépendre de quoi ? De la prière ? De la puissance de l'esprit, du sacrifice de Christ, de l'humilité, du service, de l'amour. On ne peut pas comparer. Il n'y a aucune comparaison. Quand l'Église veut trop imiter le monde, ben là aussi, même si elle va, il semble que ça peut marcher, que ça réussit, si elle veut trop l'imiter, sur l'instant, ça peut fonctionner, mais sur plus longtemps, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Regardez l'Église dans les Actes, elle ne possédait pas de terrain. Aucune influence sur le gouvernement, aucune trésorerie. Hein. Rappelez-vous Pierre dans les Actes, il y a le mendiant, qu'est-ce qu'il lui dit ? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et la personne est guérie. Ses responsables, c'était des gens ordinaires. Hein. Aucune formation. Pas de super diplôme, pas de grande école, aucune star parmi les membres des actes. C'est devenu des stars pour nous, quelque part. Mais à l'époque, rien. Et pourtant, cette église, elle a renversé le monde. Elle a renversé l'Empire romain. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre, parce que Dieu était à l'œuvre. Donc l'église doit répondre aux besoins du monde, mais elle ne doit pas imiter la sagesse du monde. Non, on doit construire avec la bonne motivation, et cette bonne motivation, c'est la gloire de Dieu. Les Corinthiens, ils essayaient de construire leur église avec la sagesse de l'homme, avec la sagesse du monde, alors qu'ils auraient dû dépendre de la sagesse de Dieu. C'est comme une mise en garde. Les hommes de Corinthe se glorifiaient des hommes, et bien ils avaient tort. Ils comparaient, ils divisaient l'église par leur acte. S'ils avaient recherché la gloire de Dieu, avec les fondements qu'ils avaient reçus, l'harmonie aurait régné dans cette église. Et elle nous sert à ça, cette lettre. Alors peut-être qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir nos préférences personnelles quand il s'agit de la façon dont certains vont apporter la prédication, par exemple. Hein ? Mais on ne peut pas permettre à nos préférences de devenir des sujets de division. C'est ça la maturité. On ne peut pas leur permettre. Hein. Et puis, vous savez quoi? Peut-être que celui que j'apprécie le moins, c'est peut-être celui dont j'ai le plus besoin. Pensez à ça. Peut-être ce matin, il y en a qui se sont dit « Ah non, pas lui. Pas lui, Seigneur. » Eh bien, celui qui s'est dit ça, j'ai une bonne nouvelle pour lui, c'est peut-être lui qui a le plus besoin de moi. Pas sûr, mais peut-être. En tout cas, je l'invite à y réfléchir. Hein. Tout est à vous, pour finir, tout est à vous, le monde, la vie, la mort, les choses présentes, celles à venir. On est riche en Jésus-Christ. Si tout nous appartient, il ne peut pas avoir de concurrence. Tout nous appartient. Hein. Regardez pas les hommes, insiste Paul. Gardez les yeux fixés sur Jésus-Christ. Hein. Et puis travaillons avec lui à la construction de l'Église. Vous êtes à Christ, c'est incroyable ce passage. Vous êtes à Christ, ça vient mettre l'équilibre. Je possède tout, mais je ne peux pas être imprudent. Je ne peux pas utiliser ma liberté sans sagesse. Tout est à vous, c'est la liberté chrétienne. Et vous êtes à Christ, c'est la responsabilité chrétienne. Ça marche ensemble. Tout est à vous. Hein. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce que seront nos récompenses, mais je suis certain qu'en marchant dans ce chemin que je vous ai partagé ce matin, nous en recevrons beaucoup de récompenses. Hein. On sera heureux. On marchera de manière sage. Regardez le Proverbe 3, versets 13 à 15. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent et son revenu vaut mieux que l'or et elle est plus précieuse que les perles. Vous voyez, ça rejoint l'apôtre Paul quand il dit de construire avec des pierres précieuses, avec de l'or. Voilà. C'est la sagesse. C'est la sagesse qu'on doit chercher. C'est clair. C'est, voilà. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. On a besoin des deux si on veut grandir. Si nous voulons aimer la vie chrétienne, si on veut aimer la vie de l'Église locale, si on veut aimer participer à cette vie, si on veut aimer nos frères, si on veut aimer l'Évangile, si on veut aller chercher dans cette parole, aimer le louer, aimer sa, annoncer sa mort et sa résurrection, c'est, en fait c'est ça le programme de l'Église, c'est aimer. Il n'y en a pas d'autre. Aimer, faire confiance au Seigneur. On sera bénis chacun individuellement et chacun collectivement. Cette Église grandira en maturité. Voilà. Et il y a beaucoup de membres matures, ce n'est pas le problème. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas, à un moment donné, on s'arrête, on continue. Il n'y a pas d'âge, on continue à marcher. Regardez, des fois, Gérard, quand il se lève, il a toujours la même fougue pour l'évangélisation. Il y en a qui pourraient se dire, oh, pétard, mais il n'est pas fatigué. Ben non, il n'est pas fatigué. Voilà. Aimer. Voilà. C'est tout. Aimer les gens. Aimer les gens. On ne peut pas être fatigué d'annoncer le Seigneur si on aime les gens. C'est évident. Parce que les gens vont périr. Donc, manifester notre amour, c'est annoncer l'Évangile. Voir un frère en difficulté, l'aider, c'est manifester l'amour. Etc., etc., etc. Voilà. Donc, tout est à vous. Quelle chance. Tout est à nous. Et tous, chacun, nous sommes à Christ. Amen. Voilà.